De retour sur la place du Mazel en direct de la fête de la transhumance 2015, pastoralisme d'une génération à l'autre. Et donc nous sommes en direct, il est 15h52 sur RDIWA 107.5 FM et sur internet www.rdiwa.fr avec nous autour de la table la FDO avec Fédération départementale ovine, deux représentantes, Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Et Fanny. Il faut se rapprocher du micro. Et puis, toujours Franck avec nous. Alors, la Fédération départementale ovine, est-ce que tout d'abord, on peut commencer par resituer pour tout le monde ? Qu'est-ce ?
Eh bien, c'est le syndicat départemental qui suit les problématiques des brebis, pour faire simple.
C'est un syndicat d'éleveurs, en gros, quand même. Vous êtes,
oui.
Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai, on en a déjà souvent parlé à l'antenne, hein, plusieurs fois, de la FDO. FDO qui était organisatrice jusqu'à il n'y a pas si très longtemps, ça se dit pas non plus, mais de la fête de la transhumance. Maintenant, votre rôle est plus, on va dire, technique. Enfin, maintenant, vous faites partie du comité technique d'organisation de la fête de la transhumance.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous apportez ?
Ben, en fait, on a arrêté parce qu'on s'est aperçu que le côté festif, c'était pas tout à fait nos compétences. Le festival SOS et le théâtre de Diff font ça bien mieux que nous. Après, on a les compétences sur les brebis, le pastoralisme. Voilà. Donc, on essaie de travailler avec eux pour que la fête soit aussi, pas technique, mais qu'on puisse faire passer nos messages.
Oui, il est important que la fête garde un lien quand même avec les éleveurs et que ce ne soit pas juste le passage d'un troupeau dans les villes de Die. On essaye quand même de faire passer les messages de pastoralisme et de faire connaître le métier des éleveurs auprès du grand public. Je pense que c'est ça qu'il faut conserver.
Ça passe par quoi ?
Ah, parce que là, ça passe par de l'information basique, à savoir comment fonctionne un élevage, des questions toutes simples, des fois comme combien de temps ça vit une brebis, combien ça a d'agneaux, combien de temps on met pour faire un agneau. C'est des choses simples comme ça.
Mm-hmm. Ah ouais, bah c'est vrai.
Que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est vrai, quand on n'est pas dans le milieu, c'est tout à fait normal de ne pas les connaître.
Et c'est ces questions-là qu'on vous pose ? C'est vrai que nous, on est complètement dedans, alors du coup, on se pose même plus ces questions.
C'est le problème d'être...
Alors ce matin, le gros des questions, ça a été de savoir où est-ce qu'on pouvait manger de l'agneau qu'on était en train de servir.
Quand même.
Mais si, il y a quand même des gens qui posent des questions sur les élevages et sur le mode de fonctionnement, oui.
Ouais. Puisque là, on est dans vraiment, c'est le thème, c'est la transmission. Est-ce qu'il y a, vous sentez, à travers ce type de stand ou de représentation, que... il y a une transmission qui se fait ou qu'il y a une forme d'éducation en tout cas qui est en train de se faire, quoi.
Ouais, il n'y a pas de transmission dans le sens il n'y a pas des jeunes qui viennent nous dire ah bah oui en venant à la fête de la transhumance j'ai découvert une passion pour la brebis. On rencontre pas des gens comme ça. Par contre le nombre de gens qui savent rien du tout sur les brebis, qui vont nous poser des questions et sur lesquelles on va pouvoir les éclairer sur notre métier, sur un peu le côté de l'astreinte. Il y a quelqu'un qui nous demandait comment on faisait la différence entre deux brebis. Voilà. Il y a quand même moyen de vraiment transmettre des idées et des informations.
Et puis les gens veulent savoir ce qu'ils mangent aussi, quelque part, savoir comment c'est fait. Parce que c'est vrai que quand on voit de l'agneau en barquette dans un supermarché, on a envie maintenant, je pense, de plus en plus de savoir comment il est venu du tout début à comment il est venu dans sa barquette, quoi, de l'élevage à... au supermarché, on va dire.
On n'a pas arrêté d'en parler et vous êtes touché, cette problématique du loup, cette problématique qui vient donc toucher comme ça les élevages, même démotiver ou au contraire mettre un vrai coup en tout cas à la profession. Quand on est sur ce type d'événement, est-ce que c'est aussi... quelque chose sur... Enfin, vous allez essayer de sensibiliser les gens là-dessus aussi.
Ah bah, évidemment.
Et comment ? Comment pas faire peur ? Comment
C'est la grande question. Notre gros problème à nous, c'est ça. C'est qu'on peut... On a vraiment du mal à en parler calmement, de façon à ce que les gens y comprennent. Parce que ça va toucher quelque chose de tellement sensible. C'est des images tellement atroces qu'on a vues de nos brebis égorgées, affolées. Que du coup, c'est compliqué d'essayer de passer l'information calmement. Alors que les gens, ils ont besoin de paroles calmes et claires. Et ça, on n'est pas très très bon dans la profession pour arriver à le dire. Donc bon, on s'entoure de plus en plus de monde, de plus en plus d'animateurs qui sont sensibles à notre travail et qui arrivent à mettre des mots plus clairs que juste un coup de colère, un coup de sentiment.
Et cette émotion-là, pourtant, c'est quand même important que les gens la captent, parce que sinon, on reste très technique. Oui, bon, le loup est un prédateur, nous aussi, que faisons-nous?
Oui, mais tu vois, là, il y a un collègue qui a eu une attaque cette nuit. Et ben, je pense que sur la colère, peut-être qu'il aurait pris les cadavres, il les aurait amenés. Mais est-ce qu'en amenant des cadavres, est-ce que les gens sont capables de comprendre le travail qu'on fait? Voilà. Alors effectivement, la colère, elle sort, mais je suis pas sûr qu'on fasse changer les idées forcément avec du trash.
Ouais.
Et en même temps, avec l'émotion, on fait ce qu'on peut aussi, quoi.
Bon, alors on fait plutôt griller du cadavre, on le mange. Non, c'est pas le bon truc. Bon, en tout cas, on mange de l'agneau sur votre stand aussi. Et il vient d'où?
C'est de l'agneau qui était de Minglon. Qui a été élevé à l'herbe et dehors, quoi. Et du coup, pour rebondir toujours sur cette histoire de loup, c'est que plus il y a de loup, moins on va finir par avoir envie d'aller mettre nos bêtes dehors. Et du coup, de l'agneau qui est très extérieur, et ça va devenir de l'intensif de bergerie.
Au triticale
à l'alimentation médicamenteuse. Enfin, voilà, alors que c'est pas du tout l'idée de notre travail.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça non plus, que peut-être à un moment donné où l'agneau serait plus aussi bon.
Elles ont quand même trouvé une formule pour valoriser en fait les brebis de réforme, parce qu'il y avait d'excellentes merguez sur le stand, mais je me suis régalé.
C'est quoi la brebis de réforme? C'est celle qui peut plus
c'est
jamais...
C'est la brebis
qui peut plus faire
voilà, qui fait plus d'agneau, qui va arriver à la retraite.
À la réforme.
Voilà, courte retraite.
Allez hop. Est-ce que vous avez un message particulier, la FDO, que vous voudriez passer là maintenant?
Moi j'aurais envie de dire aux éleveurs de continuer d'aimer leur métier.
Pourquoi toi tu l'aimes d'ailleurs ce métier? Et qui t'a été transmis par ton père? Il y a une histoire de transmission. Tiens, la transmission a été faite alors.
Moi je te dirais pourquoi t'aimes ta femme. C'est des choses que...
Des fois, on se pose des questions. Hein.
Oui, mais est-ce que tu es capable de l'expliquer? Oh ben nous, il y a bien des dimanches matin où on n'est pas content de se lever.
Bon, ça va.
Et justement, en tant que fédération, quelles sont les préoccupations actuellement des éleveurs sur justement cette notion de transmission? Parce que la thématique de cette année sur la transhumance, c'est vraiment de génération en génération. Métier en voie de disparition ou pas? Quels sont vraiment les leviers et les freins pour l'installation actuellement?
Moi, je suis pas convaincu que ce soit en voie de disparition, parce que c'est un métier de passionné et que des passions, il y en aura toujours. Le poids du loup est quand même un poids vraiment important qui n'encourage pas les gens à venir, c'est sûr. Après, il y a le côté économique où là, il y a une réforme de la PAC, on ne sait pas trop où on va, c'est toujours un peu compliqué de ne pas pouvoir vivre de notre produit directement et d'être obligé de passer par des subventions. Où justement les pro-loups nous le remettent souvent en contre-argument en nous disant mais de toute façon vous n'avez pas besoin de ça pour vivre, vous ne prenez pas de primes. Les primes, si on pouvait ne pas les prendre, on se ferait une fierté de ne pas les prendre.
Bon, enfin, ce serait difficile de s'en passer actuellement. Le prix de production d'un kilo d'agneau.
C'est pas possible.
Actuellement, entre 15 et 16 euros à peu près.
Ouais, voilà, j'ai pas le chiffre exact, mais on est dans ces eaux-là.
Et le prix de vente qu'on peut trouver en grande surface pour l'acheteur en fait.
Après ça dépend des morceaux, donc
il est autour de 20 euros le kilo, je pense.
Voilà, donc on voit à quel point effectivement c'est très difficile de marger dessus et que les subventions sont indispensables en fait pour maintenir les exploitations.
Alors le gigot est à 20 euros le kilo puisqu'on achète en supermarché,
mais payer
à l'éleveur entre 6 et 7 euros.
Voilà.
Donc ils rentrent même pas dans leur prêt.
Voilà, quand c'est bien payé, quand on est en label, sinon on est à 4,50 euros.
Donc ils ne rentrent pas du tout dans leurs frais et c'est pour ça que les subventions sont nécessaires.
Et malgré ça, il y a des éleveurs qui sont motivés pour s'installer.
Ah oui, on en voit.
C'est formidable. Il faudra nous donner la recette pour garder la motivation comme ça intacte, parce qu'avec des conditions pareilles, c'est quand même
extrêmement
difficile.
Après, c'est vrai que depuis 3-4 ans, le prix de l'agneau a quand même pas mal augmenté. On peut quand même le dire, il a quand même pas mal augmenté par rapport, si on regarde par rapport à 2005 ou 2004, Et ça, je pense que c'est vrai qu'en ce moment, il faut justement en profiter parce qu'il y a quand même une belle vague d'entrain sur le.
On voit aussi que de plus en plus d'exploitations en fait, se regroupent soit en GAEC, soit en ORL, en fait, pour être à plusieurs familialement, pour pouvoir tenir l'exploitation, en diversifiant des ateliers, justement, pour ne pas tout miser sur l'agneau et avoir un petit peu de bovin qui résiste mieux aux attaques de loups, par exemple, voire faire de la transformation. Mais tout ça, ça représente du temps humain aussi, donc c'est pas évident, quoi. Déjà que l'élevage, c'est 365 jours par an, quoi.
Voilà. Mais je pense que c'est pour ça que l'association, la forme associative de l'exploitation, c'est ça qui va plus ou moins, enfin pas nous sauver, mais c'est vrai que c'est ça qui va aider les exploitations, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en individuel, eh ben, il doit se lever 365 jours par an, comme vous dites. Alors qu'on le voit dans les grosses exploitations, enfin grosses exploitations relativement, mais qui sont en GAEC ou en association, ils peuvent au moins se prendre un week-end par mois, 2 ou 3 semaines par an, et ça, mine de rien, c'est vraiment, vraiment pas négligeable.
Transmission donc sur cette fête de la transhumance avec la FDO, parce qu'on dit toujours oui bon il y a un travail passion, si on a sans cesse des obstacles, la passion on peut s'amenuire, mais sinon qu'est-ce qui maintient cette passion?
Je vais te faire la même réponse que tout à l'heure.
Mais non, mais au point de parce que là
moi, je vais vous moment, dire, je pars au travail le matin, j'ai pas de feu rouge. Là, c'est... Donc déjà, je suis, comment dire, épanoui dans mon travail. Déjà, et après, la prédation, c'est vrai que ça a eu un frein. Mais passionné, il faut dire que des obstacles, on en voit pas tous les jours. Et qu'il y a des journées qui sont fantastiques.
Ouais, si vous pouvez juste vous représenter, vous nous avez rejoint en
cours
de
moi,
route.
Éleveur à Ravel et Ferrier, donc sur la commune de Boulk, et j'ai 200 brebis et je travaille avec mon père qui en a 400, on en a 600 en pure race avec des brebis morées rousses. Et là, la prédation sur la commune de Boulk est...
Forte ?
Non, un peu moins forte, donc on arrive à revivre. Qu'il y a 3-4 ans, c'était vraiment dur et la vie sociale, après, c'est pas la même. Que plus avoir de prédation, on revit quand même.
Elle est moins forte. Moins forte parce qu'au niveau de l'exploitation, vous avez pris des mesures.
Bah, toute la commune, nous éleveurs, on est les seuls à partir en estive.
D'accord.
Et ben, mes parents, qui se battaient pour le loup depuis 20 ans,
contre
le loup, ouais. Contre le loup, ils partaient sur Glandas. Et c'est vrai que sur les hauts plateaux du Vercors, il y avait de la prédation. Mais depuis 4 ou 5 ans, sur la commune de Boulk, la prédation, elle était sur les locaux, quoi, sur les gens qui partaient pas en estive, qui connaissaient les prédations, mais qui n'avaient jamais subi de prédation. Et là, ça a été vraiment sur la commune, dans un sens, ça a rapproché les gens, les éleveurs, mais dans un autre sens, la vie sociale, c'était vraiment pas la même, quoi. Et il faut rappeler que les chiens patous, on nous oblige à avoir des chiens patous. Ça limite la prédation, mais dans les villages, dans les petits villages, les gens, ils sont pas,
ça peut faire peur, un patou.
Voilà,
c'est ça.
Ça peut faire peur aux gens, soit résident principal, soit résident secondaire. Et c'est vrai que la vie, moi, je me suis vu, tous les gens un peu du village étaient contre moi parce que les patous faisaient peur et ainsi de suite, quoi. Les gens, ils venaient me voir.
Alors justement, on rentre en période estivale, on a beaucoup de touristes qui vont être présents et qui vont aller sur les alpages, qui vont utiliser les chemins de randonnée. Quelle est la conduite à tenir en fait quand on passe à proximité d'un troupeau?
Un troupeau, ça peut être magnifique quand on vient d'un autre pays, qu'on vient se promener, et ben ça peut être magnifique. Il faut prendre les photos de loin et pas se rapprocher des troupeaux ou pas passer dans le troupeau parce que pas de loup, pas de patou. On n'aurait pas de loup. Les gens, ils pourraient venir et prendre des photos gentiment des troupeaux, avoir des photos magnifiques.
Aller toucher les moutons.
Voilà, presque. Ceux qui sont gentils, on peut les toucher. Hein. Moi, je vois, il y en a, ils viennent naturellement me se faire caresser. Et seul problème avec le loup, la prédation, les chiens de protection, on les oblige à défendre leur famille. les familles, c'est les moutons. Et s'il y a une personne, même un nouveau berger, hein, on peut avoir des problèmes de berger, le berger, il se fait remplacer, ben, il peut se faire mordre les fesses parce que le patou, il défend ses moutons et il est là, il ne connaît pas la personne et il défend sa famille.
Voilà. Et on lui mettrait une vache ou un âne, il ferait pareil d'ailleurs aussi. Hein,
ouais, pareil, ouais, pareil.
Il défend pour...
Si je puis me permettre, il y a une chose avec les patous aussi, c'est que certes, ils limitent la prédation, mais on voit que de plus en plus, le loup s'y habitue. Enfin, il me semble.
On a même entendu...
Les malins, ils s'adaptent.
On ne va pas dire que le patou défend le truc, mais par contre, le mec qui n'a pas de patou, c'est sûr qu'il se fait attaquer.
Voilà. Et en fait, ce que je veux dire, moi, s'il y a une meute de... Par exemple, là, ce qu'on entend avec les bovins, le jeune qui s'est fait agresser par les loups, heureusement qu'il avait un fusil, il y avait 13 loups. Et ben, il faut 20 patous pour défendre son troupeau. S'il y a qu'un patou sur 13 loups, il peut pas défendre. Il faut que le patou, il soit au moins 2 contre un loup. Donc s'il y a 3 patous qui traînent, il faut 6 loups, 6 patous dans les troupeaux. S'il y en a 20 qui traînent, il faut 40 patous. Et ça devient ingérable. Avec les touristes, avec nous.
Et puis, même nous au milieu des brebis, si on est obligé d'avoir une meute, et
oui.
Ça n'a plus rien à voir.
Et puis moi, j'essaye d'avoir des patous qui sont un peu pas distants avec l'humain, mais que le touriste qui lui donne à manger, qu'il n'aille pas le suivre, parce que moi, on m'a déjà appelé, ouais, votre patou, il m'a suivi, il faut que j'aille à la gendarmerie chercher mon patou, et ben voilà, il a suivi le touriste. Il faut un équilibre, et ça, cet équilibre-là, il est vraiment dur à avoir, quoi, avec les chiens, des fois, ils sont bons, des fois, ils sont un peu moins bons.
Et puis, le cœur du métier, quand même, c'est éleveur au vin, c'est pas éleveur de patou non plus.
Il faut peut-être
rester sensé, quoi.
J'ai 400 têtes, plus 100 patou.
Bon. Voilà. Non mais c'est vrai, à Draguignan, il y a quelqu'un, il a 1000 moutons, et il est obligé d'avoir 20 patous et il se fait attaquer encore régulièrement par les loups. Quoi. Et
puis on parlait du côté malin du loup, il y a des cas aussi de patous qui se font détourner, voilà,
même manger,
écarter
manger,
du troupeau, manger bien manger. Sûr.
Il y a Valmaravel chez Irène Jourdan, le loup il a mangé les patous. Après chez Baudouin, Alain Baudouin, c'est pareil, et là il a changé, maintenant il met des bergers d'un hôtelier, et ben il a retrouvé les loups, le crâne du loup,
le crâne
du patou, pardon. Voilà. Et le jeune, moi je veux revenir sur les bovins. Les bovins, ça a bien, on dit, ouais, il faut changer système d'exploitation. Le bovin, mais c'est pareil, les vaches, elles sont complètement folles, quoi. Vous reconnaissez pas, les gens, comme vous dites tout à l'heure, 365 jours de l'année, vous les nourrissez, les vaches. Elles subissent un attaque et les vaches, elles vous chargent. Moi, j'ai écouté le père des jeunes qui se sont fait attaquer. J'ai eu des frissons. Le jeune, le père, il est en train de dire que la voisine, on ne sait pas si elle remarchera parce qu'elle s'est fait charger par ses vaches, quoi, par ses propres vaches qu'elle chérit, quoi. Donc, où on va ? Dans le mur.
Et malgré tout, on reste passionné quand même et accroché à son métier. C'est assez impressionnant quand même. Il y a des leçons à tirer, je crois.
Je pense qu'il y a plein d'histoires et il y a plein d'histoires qui se font entre vallée et vallée. Et chaque histoire se ressemble ou se ressemble pas, mais dans un sens, comment dire, l'État fait des avancées, mais le loup, il est tellement intelligent. Et dans nos contrées, il y a tellement de forêts, etc., qu'on ne peut pas passer le temps à nourrir nos moutons, à faire nos foins, à faire nos horaires de journée, et à chasser le loup la nuit. On ne peut pas, quoi. On est humain. On ne peut pas faire 24 heures sur 24, 365 jours sur l'année. Et puis c'est ça, quoi.
C'est pas le métier des éleveurs non plus.
Voilà.
Et il y en a beaucoup qui n'ont pas de permis de chasse.
Ouais,
en plus. Pas équipés,
en plus.
Et puis c'est surtout que...
Moi, j'ai pas le permis.
Finalement, d'armer des mecs en colère, c'est pas forcément une solution, quoi.
Ouais. Je pense que les gens qui subissent les attaques et qui sont, comment dire, pas mal dans leur peau, mais qui sont
à bout de nerfs,
et ben ces gens-là, ils sont dangereux. Il faut se méfier.
Ouais, on peut avoir peur de voir passer l'éleveur avec tous ses patous, on a peur des patous, mais un jour on vous verra tous passer avec des fusils, des calaches, on pourra se poser des questions aussi.
Non mais si tu veux, l'histoire des vaches, elle est, c'est quand même très pervers comme truc, parce que des attaques de vaches vraiment mordues, avec vraiment un cadavre, il n'y en a pas des masses. Par contre, des vaches qui ont été coursées, des vaches qui ont été blessées, il y en a plein. Et la vache, c'est quand même pas le même gabarit que la brebis. Donc la vache, elle va vraiment s'énerver et elle va vraiment se retourner contre les hommes après. Parce qu'elle est énervée, quoi. Et donc, du coup, l'humain, il se retrouve attaqué par ses vaches Et les gens le croient plus après, quoi.
Il y a tout qui se casse la figure. L'éleveur, il se fait charger par ses vaches.
Je sais pas comment expliquer. Fabule, quoi. C'est vachement dur à vivre après.
De toute façon, sur ce problème de la prédation.
Moi, mes moutons, quand on se faisait attaquer, ils rentraient tout seuls à la bergerie. Parce que le soir, j'allais les chercher. Le matin, j'allais les sortir de la bergerie. Le soir, j'allais les rentrer à la bergerie. Quand ils se faisaient attaquer par les brebis, elles rentraient toutes seules. Je pouvais rien faire. Le chien devant, moi devant, rien du tout. Elles savaient où était la bergerie. Les brebis, elles rentraient toutes seules.
Non, et puis oui, ce côté fabulateur, ouais, c'est, enfin, là, même maintenant, je commence à entendre que les patous se montent en meute pour aller attaquer eux-mêmes des brebis et sortir parfois des troupeaux. Enfin, voilà, donc vous fabulez tout le temps, vous avez un métier. C'est quand même dingue, je sais pas, ça doit être dur à vivre.
C'est pas les patous qui attaquent les brebis, c'est les vautours et les loups.
Les vautours, ah oui, les vautours aussi.
Les vautours, moi j'en ai une bien bonne, moi. Quand il y a les jardins, j'enferme mes poules. Mais là, l'hiver, en fait, elles sont en liberté, donc il n'y a pas de jardin. Il y a un combat, on appelle le combat, c'est un champ, il est bien. Et ben, il y a deux vautours, ils ont emporté une poule chacun. Deux poules. L'Office national, ils voulaient me croire, tu vois. Ils étaient réceptifs. La DTT, pas du tout, je suis passé pour un fou.
Oui, le vautour est un charognard.
Voilà, le vautour est un charognard, il mange que la fente faisandée. Mais il faut savoir que quand on a une attaque de loup, il faut protéger ses carcasses, sinon le vautour, il est direct dessus. Donc là, le matin, dans la nuit, on a une attaque, le matin, le vautour, il est là, la viande, elle n'est pas faisandée, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais...
Donc au bout d'un moment, il peut en ramasser un comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs ce bon fmur dans la BD du génie des alpages.
Ouais.
Les vautours, ils adoraient attraper les aigles aussi, d'ailleurs. Ouais. Enfin, tout le monde attrapait les brebis.
Et Lucky Luke, hein ? Lucky Luke, ils sont où, Lucky Luke ?
Merci Guilhem, merci Fanny, merci Nathalie pour la FDO, pour ce témoignage aussi. Et puis un bon retour sur votre stand où vous avez fini de faire déguster.
On a fini de faire déguster, mais on a encore tout un tas de plaquettes et on est capable de répondre à des questions.
Voilà, alors venez poser des questions à la FDO, c'est au milieu de la place du Mazel. Demain, vous y êtes aussi au col ?
Oui, on sera au col de Rousset.
Voilà, bon.
Merci à vous.
Ou demain au col.
Au revoir.
À bientôt.
Merci à vous.